Europe 1.
Europe 1 Soir Weekend.
18h-19h, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Europe 1 Soir Weekend, 60 minutes d'infos et de débats. Il est 18h sur Europe 1. Et au sommaire ce soir, bien sûr, les conséquences et les suites de l'attaque de l'Iran sur Israël la nuit dernière. 300 drones, des missiles balistiques et des missiles de croisière lancés contre l'État hébreu qui a pu en détruire 99%. La tension est au plus haut. Réunion du cabinet de guerre restreint en Israël, du G7, des ministres des Affaires étrangères européens, du Conseil de sécurité de l'ONU. Tous appellent à la désescalade et Téhéran justifie le droit de se défendre. Dans un instant, le récit de cette escalade et la situation à Tel Aviv avec les correspondants d'Europe 1, les spécialistes Frédéric Ancel et Qatar Abou Diab sur le rôle d'Israël et sur celui de l'Iran. 18h15 en direct en studio ici à Europe 1, l'ambassadrice d'Israël en France, Alona Fischer-Kam, et à 18h30, une partie du club politique d'Europe 1 aussi consacrée à cette question, d'autant que la France est impliquée diplomatiquement dans ce processus. Frédéric Dabi de l'IFOP et William Tay du Millénaire. La météo, la tendance. Bonsoir Anthony Kaczmarek.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Un temps beaucoup plus frais pour demain. Nous allons quasiment partout repasser en dessous de 20 degrés avec le retour de la pluie, des averses et d'un fort coup de vent sur le nord du pays. Trois départements sont en vigilance orange pour ces rafales de vent, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme.
Météo complète dans un petit quart d'heure. Cette action de représailles de l'Iran, on l'attendait, on la redoutait plus précisément. Le régime de Téhéran avait promis une vengeance après l'attaque qui avait visé le consulat iranien à Damas le 1er avril dernier, attaque attribuée à Israël et qui avait conduit à la mort de 16 personnes, dont 7 personnalités des gardiens de la Révolution et parmi eux, 2 commandants principaux. Cette nuit donc, Téhéran a usé d'une force armée sans précédent contre l'État hébreu. Bonsoir Caroline Baudry.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Les premières frappes ont eu lieu aux environs de minuit.
Oui, plus de 300 drones tueurs, missiles balistiques et missiles croisières lancés par l'Iran s'approchent alors d'Israël. Les sirènes retentissent. Le ciel est transpercé par une multitude de boules de feu. Le dôme de fer entre en action. Les roquettes israéliennes fusent pour détruire les projectiles ennemis. Des dizaines d'avions de l'armée lacèrent le ciel, aidés par les chasseurs américains et britanniques. 99% des drones et missiles sont interceptés, annonce l'armée israélienne qui déclare avoir déjoué l'attaque. Certains missiles tombent toutefois en territoire israélien, notamment sur une base militaire précisément visée par l'Iran, celle qui a servi à mener la frappe du 1er avril sur le consulat iranien en Syrie. Bilan humain, un blessé grave, une petite fille et 31 blessés légers dans leur course à la recherche d'un abri.
Merci Caroline Baudry. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Géopoliticien, auteur notamment de les 100 mots de la guerre aux éditions PUF. 99% de ces bombes ont été arrêtées, certes, par le dôme de protection et l'aide américaine, mais question simple, est-ce qu'Israël est en danger ?
Ah mais bien sûr qu'Israël est en danger, parce qu'imaginez que l'Iran ait utilisé non pas 300 projectiles, mais 3000, sachant qu'il en possède vraisemblablement plusieurs dizaines de milliers. Et encore, on est là dans du conventionnel. Parce que le programme nucléaire iranien, qui lui vaut d'ailleurs d'être soumis à des sanctions internationales depuis le 1er janvier 2007, ce programme nucléaire, il se poursuit. Donc oui, fondamentalement, Israël est en danger, j'ajoute un dernier point, depuis l'avènement à Téhéran de la République islamique, très officiellement, hein, les Iraniens ne s'en cachent pas, et pour cause, ils considèrent que Israël doit être détruit. Bon, donc effectivement, Israël est en danger. Oui.
On s'attend indéniablement à une réplique des Israéliens, ça a commencé d'ailleurs au sud du Liban, mais si cela se produit, est-ce qu'on ne rentre pas dans l'engrenage d'un conflit régional qui pourrait déborder, comme le redoute d'ailleurs Emmanuel Macron dans un tweet ce matin ?
Alors, je ne le crois pas dans la mesure où les Iraniens, enfin la République islamique d'Iran est dirigée par des fanatiques, mais pas par des abrutis. Ce sont des gens qui connaissent très bien les rapports de force. D'ailleurs, ils en ont joué, puisqu'on l'a vu il y a un instant, ils n'ont envoyé, entre guillemets, que 300 projectiles. Donc, c'est beaucoup dans l'absolu, mais au regard de ce dont ils disposent, c'est encore assez faible. Et que, jusqu'à présent en tout cas, ils faisaient faire la guerre contre Israël par les autres, hein, et notamment par le Hezbollah et les Houthis. Donc, ils ont bien pris soin d'envoyer des signaux à Israël et aux États-Unis, y compris à travers un message envoyé à l'ONU en pleine nuit, indiquant que, bah, voilà, enfin, ils étaient quittes. Bon, alors après, le problème, c'est que pour Israël, il n'y a absolument pas du tout de possibilité de ne pas réagir pour des raisons très claires. La première, c'est la suivante, recouvrer une crédibilité dissuasive.
On joue sa survie. Israël joue sa survie en ripostant.
Bah, Mais c'est ça. En tout cas, en défendant sa crédibilité, oui, c'est d'autant plus vrai que cette crédibilité dissuasive, elle a été écornée lors du grand pogrom du Hamas le 7 octobre dernier. Donc, il n'est pas imaginable qu'Israël ne riposte pas.
Israël, donc, sur plusieurs fronts, le Hamas toujours, il ne faut pas l'oublier, le Hezbollah, maintenant l'Iran. Qui demain, qui après-demain, Frédéric Ancel ?
C'est bien le problème d'Israël. C'est d'être, alors, sinon totalement isolé, parce qu'on a bien vu que les États arabes observent une neutralité bienveillante, en fait, avec Israël, tellement ils ont peur de l'expansionnisme pan-chiite iranien. Néanmoins, si Israël baisse la garde, autrement dit, si, je reprends mon expression, sa crédibilité dissuasive devait être très très fortement mise à mal, eh bien, le risque ne serait pas seulement tactique ou technique, mais existentiel. Donc moi, je vous dirais que pour l'instant, tous ceux que vous venez de citer avec raison sont au fond les seuls véritables ennemis durs d'Israël. Alors, à ne pas les mettre sur le même piédestal, parce que l'Iran est potentiellement beaucoup plus dangereux que les Houthis qui finalement sont quand même surtout des va-nu-pieds. Et le Hezbollah, là-dedans, constitue, on va dire, un péril sérieux intermédiaire.
Dernière question, Frédéric Ancel. Quelle position Iketnunk pour Benjamin Netanyahou ? Peut-il se racheter, j'allais dire, des fautes du passé, notamment du manque de vigilance le 7 octobre ?
La réponse est non, tellement le cataclysme a été important, tellement c'est de nature différente. C'est-à-dire que, je le dis en deux mots, aujourd'hui, les Israéliens, dans leur totalité, je crois, pouvoir l'affirmer, je les connais bien, évidemment, son dernier Netanyahou face à un État impérialiste cruel qui n'a jamais reconnu Israël et qui le frappe directement. Bon, là, si vous voulez, il n'y a pas de dimension morale, il n'y a pas de dimension identitaire. Alors qu'avec le coup de force et le pogrom du Hamas, mais également la question des territoires palestiniens et de manière générale la question oui ou non des deux États, là, on est dans autre chose. C'est la raison pour laquelle je pense que pendant quelques jours, quelques semaines, Netanyahou va bénéficier d'un semi-état de grâce, en quelque sorte. Les gens seront obligés de le suivre, évidemment, face à l'Iran, et ils le font volontiers. Mais dès lors que cette crise, que cette facette de la crise moyen-orientale se sera apaisée, on en reviendra à une hostilité de la population très, très forte contre lui.
Merci de ces précisions, Frédéric Ancel. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, direction Israël, justement, alors qu'il est 18h07 sur Europe 1, où la vie continue. Alon a 50 ans, il était israélien, il vit à Tel Aviv. Il était minuit passé lorsqu'il a vu les drones et les missiles iraniens percer le ciel.
On a entendu du bruit dans le ciel, surtout dans la zone de Jérusalem et dans le sud d'Israël. C'était comme une guerre des étoiles, une attaque massive. Le ciel brillait, nos roquettes frappaient les drones et les missiles avec le dôme de fer. Nos avions étaient là partout. C'est très différent d'une attaque de roquettes de Gaza. Les roquettes de Gaza sont plus proches, alors que là, on a eu le temps de s'y préparer. En tout, ça a duré un peu moins d'une heure. Aujourd'hui, on essaye de retrouver une situation normale. Mais c'est très très dur d'être attaqué et de rester calme. Alors beaucoup de gens restent chez eux aujourd'hui.
Voilà donc pour ce témoignage d'Alon à Tel Aviv. Bonsoir Ariane Ménage.
Bonsoir à tous.
Correspondante d'Europe 1 en Israël. Comment vit-on après les attaques de la nuit dernière ?
On sent les Israéliens partagés aujourd'hui entre soulagement et anxiété. Soulagement face à l'efficacité de la défense antiaérienne israélienne. C'était aujourd'hui le sujet de toutes les discussions. Malgré un très grand nombre de tirs, les drones et les missiles iraniens n'ont provoqué que des dégâts mineurs. Et puis anxiété en ce qui concerne les jours à venir. Les craintes d'une véritable guerre directe entre Israël et l'Iran ne sont pas écartées. Et la population israélienne s'y prépare. D'ailleurs, l'armée affirme rester en état d'alerte. À Tel Aviv, Benjamin Netanyahou réunit à nouveau son cabinet de guerre cet après-midi. Il est question de l'éventuelle riposte israélienne contre Téhéran. Le Premier ministre israélien avait hier soir promis des représailles. L'allié américain tente, lui, de faire pression pour l'en dissuader.
Merci Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Voyons maintenant ce qui se passe en Iran. Voilà, vous entendez la foule en délire à Téhéran pour les autorités. L'attaque d'hier a atteint tous ses objectifs, notamment une base de l'armée de l'air israélienne dans le désert du Negev que Tzal ne mentionne en tout cas pas du tout. Bonsoir Qatar Abou Diab.
Bonsoir.
Géopolitologue, spécialiste du monde arabe, je le disais, cette riposte au 1er avril de Téhéran, on l'attendait, on la redoutait. Elle était donc quoi, nécessaire pour les autorités iraniennes vis-à-vis de sa population ?
Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est une histoire d'opinion publique iranienne, mais c'est aussi une nécessité pour le régime lui-même, pour le guide suprême qui a menacé des fois, après l'attaque du consulat iranien à Damas, de riposter. Et pour cela, l'Iran qui ne riposte pas, malgré des attaques par procuration, malgré des attaques sécuritaires israéliens contre plusieurs personnalités à l'intérieur de l'Iran et à l'extérieur, cette fois, pour ne pas perdre la face, le régime iranien a fait cette preuve de force ou ces spectacles hier d'une attaque contre Israël. Mais le fait qu'on a informé les Américains et les pays voisins 72 heures avant, ça signifie qu'il y avait quand même quelque chose préparé pour une attaque limitée. Et le fait que les forces américaines, comme les autres pays occidentaux présents dans la zone, ont contribué à la défense de l'État d'Israël, tout ça entre dans la perspective d'empêcher Israël de riposter à l'Iran pour éviter l'escalade générale.
Oui, mais est-ce que l'Iran s'arrête là? Vous parliez de spectacle de mise en garde 72 heures avant. Est-ce qu'il y a une étape suivante? Est-ce qu'il y a une étape nucléaire, tout simplement?
Non, car je pense qu'il y a toujours les proxys de l'Iran. Les proxys de l'Iran qui continuent à gêner la circulation dans la mer Rouge et ailleurs avec le Houthi. Il y a le Hezbollah qui est le plus grand proxy important de l'Iran. Il y a les milices irakiennes, Al-Hashd al-Shabi, mobilisation populaire. Il y a donc ces éléments de l'Iran qui continuent avec le Hamas et le djihad à l'intérieur de faire la guerre. Et là, pour la première fois, l'Iran fait quelque chose d'une façon directe, même si c'est pas stratégique. On peut parler d'une gesticulation stratégique hier et pas d'une attaque stratégique iranienne.
Donc, ça sert à quoi cette attaque? Vous avez dit que c'était pour la légitimité du guide suprême. Est-ce qu'à l'intérieur du pouvoir iranien, il y a des divisions? Il y a certains qui disent si, il faut attaquer plus, et d'autres qui disent pas du tout, on est là juste dans une démonstration de force.
Moi, je ne crois pas aux divisions au sein du régime iranien. C'est un régime monolithique et c'est le guide suprême qui décide. Et après l'élection d'Ibrahim Raisi, qui est extrémiste aussi, la voie de réforme, même dans les dernières élections iraniennes, a été matée. Le peuple iranien a été maté. On sait bien l'histoire de Mahsa Amini et ses suites. Et pour cela, c'est une décision des autorités iraniennes. Ce qui compte pour l'Iran, c'est le leadership régional. L'Iran veut s'imposer comme une grande force régionale. Et veut en même temps, c'est ça la réponse à la question nucléaire, veut qu'on le laisse tranquille pour finir son programme nucléaire. Et pour cela, c'est le jeu caché de l'Iran, c'est-à-dire les priorités pour l'Iran, continuer le programme nucléaire pour devenir une puissance nucléaire, comme l'Inde, le Pakistan et les autres, et Israël, où et la deuxième priorité pour l'Iran, c'est son projet impérial, la protection de ses proxys, le Hezbollah, le régime syrien, l'Irak et le Yémen.
Vous avez parlé des proxys, il y a un pays dont on parle peu, et pourtant l'Iran est très lié, c'est le Qatar. Quelle est la stratégie, quelle est la position du Qatar après cette attaque d'Israël cette nuit?
La position du Qatar, c'est une position ambiguë. Les médias les plus importants du Qatar, qui a fait la publicité du Qatar à travers le monde, soutiennent l'Iran à fond. Les autorités iraniennes essayent de se montrer modérées, mais le Qatar aussi, il faut comprendre le Qatar. Le Qatar partage un grand champ de gaz avec l'Iran. Le Qatar se situe aux côtés de l'Iran. Le Qatar essaye de se protéger en accueillant la grande base américaine de CENTCOM dans la région et en même temps à avoir des liens très forts avec l'Iran et la Turquie à la fois. Donc, le Qatar joue un jeu de médiateur pour Israël aussi, mais le Qatar, c'est pas un pays qui a le poids, mais les autres pays qui ont le poids dans la région ont été inquiets. Et le pays le plus important qui est aux côtés d'Israël, qui pourrait être menacée par les Iraniens et il y aura des tentatives de déstabilisation. C'est la Jordanie qui a contribué hier à faire échec à la à l'offensive iranienne.
Merci beaucoup de ces précisions. Qatar Abou Diab, géopolitologue et spécialiste du monde arabe. 18h14 sur Europe 1. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, le père des deux enfants retrouvés morts dans l'Essonne a été mis en examen et écroué. Cet homme de 34 ans est passé aux aveux dans la nuit de jeudi à vendredi. Le procureur a indiqué qu'il avait du mal à expliquer son terrible geste, mais que le contexte de la séparation s'était avéré conflictuel. Les deux corps des enfants poignardés par un couteau de cuisine, une fillette de 3 ans et un petit garçon de 20 mois avait été abandonné dans un champ de Forges-les-Bains. Un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 59% des Français sont favorables à l'armement des policiers municipaux. Rassemblement à Romans-sur-Isère ce soir à 18h30 dans le quartier de la Monnaie, 5 jours après la mort de Zakaria, 15 ans tué à coups de couteau pour avoir voulu s'interposer dans une bagarre. 4 hommes ont été mis en examen et incarcérés. Le sport avec le foot est la 29e journée de Ligue 1. Le Havre a perdu face à Nantes 1-0, un partout entre Clermont et Montpellier. Et ce soir à 20h45, l'OL contre Brest. En rugby, les Françaises affrontaient les Italiennes aux Six Nations ce dimanche et ça s'est très bien passé, 38-15. Le tennis avec le grec Stefanos Tsitsipas qui remporte la finale du Masters 1000 de Monte Carlo face au Norvégien Casper Ruud. Le grec qui remporte pour la 13e fois troisième fois. Mais j'aime tellement la Grèce 13. Que j'ai été tellement optimiste. Troisième fois ce tournoi, mon cher Christopher.
Oui, Pierre, finale expéditive, hein, en un peu plus d'une heure 32 de jeu. Victoire en 2-7, 6-1, 6-4. Stefano Tsitsipas, spécialiste de la terre battue, avait un avantage conséquent. Il connaissait la recette pour s'imposer à Monaco. Lui qui a déjà été sacré en 2021, en 2022. Il rejoint ainsi la légende Bjorn Borg avec 3 sacres sur le rocher. Le grec qui savoure après sa victoire.
Ça a été très difficile d'être de retour et de gagner le tournoi. C'est tout simplement incroyable. La troisième est encore plus spéciale que la première ou la deuxième fois, donc c'est purement incroyable pour moi d'avoir décroché cette victoire aujourd'hui. C'était angoissant. Je voulais vraiment la troisième, je l'ai donc eue et je suis extrêmement heureux aujourd'hui.
Auteur d'un match maîtrisé, Tsitsipas a également été aidé, il faut le dire, par le faible niveau de Casper Ruud dans l'impossibilité de saisir les opportunités, à l'image de cette statistique. 8 balles de break, aucune de concrétisée. En tout cas, Stefano Tsitsipas en pleine renaissance cette semaine sur la terre battue de Monte Carlo, après avoir battu notamment l'un des favoris, le numéro 2 mondial, l'Italien Yannick Sinner. Le grec fait son retour parmi les 10 meilleurs mondiaux.
Merci Christopher Filoc, le Masters 1000 de Monte Carlo qui trace une ligne vers Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, bien entendu. Météo, Anthony, un temps agité demain avec 3 départements en vigilance orange.
Oui, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme pour de fortes rafales de vent, 100 à 110 km/h, y compris dans les terres. Des rafales attendues au passage, une perturbation pluvieuse demain entre 11h et 18h, mais ces pluies seront déjà présentes en tout début de matinée près des côtes de la Manche. Et ces pluies vont traverser une bonne partie de la moitié nord du pays d'ici à demain soir, en tout cas le nord de la Loire. Jusqu'au nord-est, il y aura aussi des averses orageuses demain dans le sud-ouest, entre les Pyrénées et le Massif central, tout comme entre l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes, partout ailleurs, plutôt des éclaircies, même si les nuages vont s'imposer dans l'après-midi entre le Poitou-Charentes et la Bourgogne. Puis le vent va se mettre à souffler aussi près de la Méditerranée. Les températures encore relativement douces au réveil, entre 6 et 15 degrés. Mais dans l'après-midi, plus que 12 à 20 degrés seulement. Et encore 21 à 26, certes dans le sud-est, mais seulement 18 à Bordeaux et Strasbourg. 15 degrés à Paris et Metz et 12 pour Lille et Rouen.
Merci mon cher Anthony. Dans un instant, retour sur la situation au Proche-Orient. Ce nouvel épisode va-t-il provoquer une régionalisation, même une mondialisation du conflit? Quel danger pour Israël? Quelle perspective, notamment pour le sort des 133 otages? Alona Fischer-Kam, ambassadrice d'Israël, est avec nous en direct sur Europe 1. À tout de suite.